Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle saison d'émission Osons la philosophie avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous avez choisi comme sujet et comme titre pour les deux émissions Kafka pour une lecture philosophique, point d'interrogation, c'est très important. Alors, peut-être parce que c'est 2024, c'est le centenaire de la mort de Kafka.
Oui, en effet, il y a toute mais une actualité aussi, Kafka.
Voilà, mais aussi parce que Kafka vous a toujours fasciné et je sais qu'il vous a peut-être en fait décidé à faire de la philosophie ou il vous fascinait.
Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'étais en terminale. Je crois que j'ai lu Kafka un tout petit peu avant. J'étais en terminale et j'ai lu le journal de Kafka, qui a été pour moi une, peut-être un éblouissement, mais surtout j'y ai perçu des tonalités qui m'étaient proches. Enfin, j'ai vraiment eu une, ce qui est très rare de ma part, une lecture empathique de l'œuvre de Kafka. Et c'est toujours vrai, c'est-à-dire que pour préparer cette émission, j'ai relu des pages et des pages de Kafka et j'ai éprouvé la même sensation, alors à la fois d'inquiétante étrangeté et aussi de... Oui, alors inquiétante étrangeté presque au sens freudien, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'inquiétude, le trouble, parfois l'angoisse, parfois simplement des phénomènes de peur, mais en même temps, nous avons... l'impression, enfin j'ai l'impression et nous avons l'impression que tout ça vient aussi du fond de nous-mêmes, à titre subjectif, mais aussi du fond de l'humanité. C'est pour ça que le concept freudien de inquiétante étrangeté, Unheimlichkeit, me paraît très très bien évoquer ce que nous percevons au titre des affects. Car, j'y reviendrai, mais cette prose... si austère apparemment, en tout cas dans l'agencement des mots, cette prose si pure qui se donne pour volonté d'accéder à la vérité. Aucune afféterie est celle qui, non pas paradoxalement, mais en effet, produit les affects les plus violents. Et ce ne sont pas toujours des affects... négatifs comme ceux que je viens de dénoncer, on a aussi des touches d'humour, on a aussi un certain émerveillement devant en particulier tout ce qui peut concerner l'aspect de petites histoires, de fables. On a aussi la fascination de l'enfant auquel on raconte des histoires.
Oui,
un plaisir du texte.
Avec vous, j'ai découvert les petites histoires animalières que je ne connaissais pas du tout.
Alors, je vais revenir sur les trois, grands moments de l'écriture de Kafka. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais vous disiez à l'instant qu'il y avait une actualité Kafka. Alors, en effet, parlons-en.
Alors, je dirais aussi que vous ne voulez jamais des portraits des philosophes dont vous parlez, mais là, pour Kafka, mettre la photographie de Kafka vous semblait une évidence, avec ses yeux, ce regard absolument
Alors,
extraordinaire.
Alors, d'abord parce que la photo, la multiplication, la pratique de la photographie apparaît, dans les sociétés modernes, au moment même de Kafka. Je rappelle les dates, 1883, il est né en 1883, Prague, et il est mort en 1924.
Oui, donc très jeune.
Très jeune. Oui, alors, que disais-je, la photo, c'est important parce que c'est l'époque, la jeunesse de Kafka, où, effectivement, les petits garçons, lorsqu'ils font leur initiation religieuse, alors évidemment, nous ne sommes pas en milieu catholique, mais en milieu juif, sont portraiturés. Par leur famille, et avec ce visuel très très particulier. Mais nous avons choisi une photographie qui évoque le jeune Kafka, et pour moi cette photographie est poignante.
Et puis je crois que même ceux qui n'ont pas lu Kafka ont une idée, ont une conception de Kafka, peut-être par les films. Hein. On connaît le film d'Orson Welles.
On connaît le film d'Orson Welles, on l'a plus ou moins vu. Il a le mérite d'être noir et blanc, et puis surtout l'acteur.
Oui. Anthony Perkins.
Anthony Perkins. Et je crois qu'on ne pouvait pas, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux que lui pour interpréter ce personnage de Joseph K. dont je vais parler, puisque c'est le,
C'est le double
le mot
C.
héros. Le mot héros, j'hésite à le prendre. Enfin, c'est le personnage qui permet le fil conducteur de ce processus du procès.
Et puis, il y a un film qui va sortir en novembre, hein, mais qui est sur la, qui s'appelle Kafka, ou Le dernier été, je crois, de Kafka.
Le dernier été de Kafka.
Qui évoque sa dernière histoire d'amour avec, avec Dora Diamant. Donc, nous en reparlerons. Donc, sujet d'actualité, mais aussi sujet qui peut concerner chacun d'entre nous. Et peut-être casser certains clichés, certaines idées toutes faites sur Kafka.
Oui, parce que la célébrité de Kafka, en France, a été liée au mouvement qui concernait une pensée essayant de traduire notre expérience par le concept d'absurde. Et je pense que ça ne convient pas. J'essaierai de démontrer pourquoi. Alors maintenant...
J'ai une autre question, si vous permettez, Françoise. Vous connaissez parfaitement l'allemand.
Parfaitement, mais je lis l'allemand.
Vous lisez l'allemand et vous avez fait des études à la frontière allemande. Est-ce que c'est important pour cette compréhension de Kafka? On reparlera
alors,
de la
deux
langue
choses,
tout à l'heure.
Nous allons parler de la langue, mais deux choses. La langue de Kafka est pure, sans afféterie, c'est-à-dire que la lisibilité première des mots de Kafka et de la phrase kafkaïenne, qui elle est plus complexe, j'en parlerai peut-être, cette lisibilité se donne d'elle-même. Ça n'empêche pas, il n'empêche pas qu'il faille par ailleurs déchiffrer Kafka.
Alors c'est ce que vous avez fait pendant des années. Je suis absolument étonnée de le nombre de notes que vous avez, des livres. Donc vous avez eu beaucoup de mal en fait à synthétiser. Il y a trop de choses à dire. Donc
oui. Alors je vais essayer d'être plus sobre. Bon, d'abord je vais parler de Kafka, de l'écriture de Kafka, mais de l'écriture de Kafka dans la mesure où elle sollicite une lecture philosophique, un déchiffrage philosophique. Je parlais tout à l'heure, évidemment, j'évoquais Sartre et Camus, et surtout Camus pour l'absurde. Mais ce qui me touche aussi dans Kafka, c'est qu'il peut être l'objet, je dis bien, d'une lecture philosophique, et j'emploie le mot de lecture plutôt que celui d'interprétation. Il y a en effet une foultitude d'interprétations de Kafka. On peut les serrer d'ailleurs en différentes strates, à la fois dans le temps et puis aussi dans les intentions. Mais je crois que la première chose à faire, c'est, je dirais, le lire dans le mouvement de sa textualité. Alors évidemment, avec des traductions, j'ai emprunté la traduction, la dernière, celle proposée par la Pléiade, qui me paraît effectivement rigoureuse. Bon, il y a eu des traductions antérieures qui étaient très poétiques et étaient, semble-t-il, un petit peu loin du texte. Mais je ne veux pas juger de cela.
Alors, les types d'écriture ou de production de Kafka, vous voulez peut-être commencer par cela, non?
Oui, je voudrais d'abord parler à propos, et sous le titre du déchiffrement de Kafka, je voudrais parler, pas de la langue en tant que telle, mais du jeu des langues qui, d'une certaine manière, croise aussi ses incertitudes d'identité. Ce qui caractérise l'homme Kafka, c'est effectivement des vacillements d'identité. Il est né dans une famille de commerçants juifs, moyenne bourgeoisie. Il est de langue allemande, mais il parle tchèque.
C'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup ont été éduqués que dans la langue allemande. Non.
Non, à cette époque, du côté de son père, on vient des villages. Et les juifs des villages sont allés vers les villes, sont des juifs des villes maintenant. Donc, ils ont changé de statut social tout en oubliant un peu l'aspect, entre guillemets, qu'ils jugeaient folklorique, Ils le dépréciaient de ce que pouvait être leur vie et leurs habitudes et leurs mœurs d'origine. Voilà. Et c'est dans ces difficultés-là que le jeune Kafka est aussi plongé, parce qu'il est à la fois cet enfant d'une bourgeoisie, entre guillemets, comme on dit, assimilée, et en même temps, il a une espèce de nostalgie d'avance de ce que pouvait être le monde d'un judaïsme qui existe toujours, croit-il. Mais en effet, Kafka éprouve à la fois son insertion sociale comme, d'une certaine manière, une chance. Hein. Il travaille au service d'organismes juridiques d'État qui traitent de tous ces problèmes liés aux accidents du travail. Et il a une connaissance parfaite de la situation sociale. Et tout cela est en langue allemande.
Mais il écrit tout en allemand.
Il n'a jamais écrit en une autre langue que l'allemand. Et du reste, ses textes en allemand ont été traduits en tchèque. Il était très vigilant sur la traduction tchèque et il est tombé amoureux de la traductrice qui n'était pas n'importe qui.
Milena, qu'il y a un livre qui s'appelle « Lettre à Milena ».
Voilà. Je reviens à mon propos. Donc, si vous voulez, chez Kafka, il y a une espèce de fracture d'identité qui joue aussi et qui recroise la question des langues, puisqu'il est de langue allemande et il appartient finalement, je dirais, à l'appareil bureaucratique de l'Empire austro-hongrois. Et en même temps, il a, en vertu de ses origines et d'une espèce de nostalgie, lui, très personnelle de ses origines, un appel vers ce qui pouvait être le judaïsme oriental, dont il pense qu'il a gardé, je dirais, ses mœurs, sa saveur. Alors, à la fois sa langue, le yiddish, mais aussi, il en parle beaucoup, de sa gestualité. Quelque chose a été perdu. Et Kafka n'a cessé, si vous voulez, de négocier entre ces deux aspects contradictoire de sa personnalité. Vous voulez que je vous cite une phrase qui est très étrange sur son appartenance et cette fracture d'identité liée justement à la condition juive de cette époque.
Alors que sous l'Empire austro-hongrois, c'était relativement tranquille.
Alors, sous l'Empire austro-hongrois, ça allait, parce que tant que l'empereur était régné, les conflits entre les groupes ethniques étaient pacifié. Alors, je vous lis à propos de cette question. Fragment d'un journal. Qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est à peine si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. Et je devrais bien me tenir tranquille dans un coin, content de pouvoir respirer. Donc, nous voyons aussi qu'il y a chez Kafka l'espoir aussi de surmonter, sans vraiment la surmonter, ce clivage. Il y a aussi l'espoir de surmonter, c'est-à-dire de respirer en dehors de ça. On le verra peut-être dans un de ces petits textes.
Oui, parce que vous dites aussi que écrire pour lui, c'était la condition de sa survie.
C'est ça. Et pour je parle beaucoup d'écriture. Pour Kafka, il écrit pour vivre. Il écrit pour vivre. Il ne vit pas pour écrire. Il écrit pour vivre. Il écrit pour survivre. Bon, il y a une analogie, j'ose la faire, entre Kafka et Proust. Alors, aussi différents soient les univers des uns et de l'un et de l'autre, je trouve qu'il y a des affinités structures assez étranges. Ne serait-ce que, justement, dans leur clivage personnel entre...
Personnage tourmenté, on le voit. C'est vrai que Kafka, on pense tout de suite à l'absurde et au tourment.
C'est un personnage tourmenté, mais qui avait la capacité d'ironiser sur ses tourments, de faire de ses tourments non seulement une affaire d'écriture très forte, mais de faire de ses tourments, justement. De les faire virer à la distance presque humoristique, en tout cas ironique.
De la langue est très important.
Alors, pour la question de la langue, et justement pour retravailler ce motif, je dirais, des crises identitaires, voici ce que Kafka dit à propos du fait d'écrire en langue allemande. Les Juifs de Prague vivent entre trois impossibilités. L'impossibilité de ne pas écrire. L'impossibilité d'écrire en allemand. L'impossibilité d'écrire autrement. À quoi on pourrait ajouter une quatrième impossibilité, l'impossibilité d'écrire. Donc, nous sommes encore cette situation extraordinairement inconfortable où il s'agit pour Kafka d'emprunter une langue qui est encore une fois la langue officielle, qui est la langue administrative, mais qui n'est pas la langue pratiquée par les gens du peuple.
Oui, et lui, vie quotidienne, oui.
Et lui parlait tchèque, il était obligé de parler tchèque, entre autres, parce que dans ses inspections, qui concernaient justement les conditions de travail des ouvriers, il s'adressait évidemment à ce petit peuple tchèque.
Il a un aspect très social.
Oui. Alors, non seulement social, mais politique.
Politique, j'allais dire, politique, parce que socialiste.
Oui, politique, parce que Kafka a été très proche, bon, ça on le dit, des milieux anarchistes. Et il y a une phrase dans son journal que j'ai trouvée, comme ça, isolée, que j'ai trouvée extraordinaire. Ne pas oublier Kropotkin. Et il connaissait. Ouais. Il avait assisté à des conférences du grand héros, si vous voulez, à l'époque, du mouvement anarchiste.
Bon. Alors, une autre héroïne, vous avez choisi d'illustrer cette première émission par les chants du ghetto chantés par Sarah Gorby. Quelques mots sur Sarah Gorby.
Oui, alors,
on ne va pas comprendre ce qu'elle dit, mais c'est très prenant, c'est un univers.
Alors, je voulais faire droit à Sarah Gorby, puisque la langue sous-jacente tout de même à l'expérience de l'allemand, la langue perdue et la langue retrouvée, dans la mesure où Kafka va... Je vais éviter le futur historique. Langue perdue, mais aussi langue partiellement retrouvée, parce que dans les années 1911, Kafka se précipite dès lors qu'apparaît sur la scène, sur des petites scènes de Prague, un groupe de comédiens en langue yiddish. Et il devient vraiment très ami avec Yitzhak Levy, qui est le directeur, enfin, un des personnages principaux de ce théâtre. Il a écrit, pour justement Yitzhak Levy, il a écrit une conférence sur le yiddish, qui est tout à fait intéressante, parce qu'il dit, il y a une phrase qui m'a, plusieurs phrases qui me troublent enfin, dans cette conférence. Il dit, bon, vous allez écouter le yiddish, il s'adresse à un public juif, vous pensez ne rien y comprendre? Non, vous comprenez. Vous comprenez, mais vous comprenez tellement que vous aurez peur du yiddish et vous aurez peur de vous-même. Et qu'ajoute-t-il encore des choses vraiment, je crois, très très intéressantes sur cette langue perdue, ce monde perdu qu'il fantasme quand même, qu'il fantasme. Alors, voudrais tout de même terminer ma petite... vous voulez que je parle de
Sarah Gorby.
De Sarah Gorby. Alors, j'ai cherché...
Voilà, 1980.
J'ai cherché donc longuement d'abord à retrouver son
nom.
Son nom, sa biographie. J'ai toujours eu, depuis très longtemps, c'est parallèle avec justement ma connaissance très jeune de Kafka, une admiration éperdue pour une chanteuse yiddish. Donc elle s'appelle Sarah Gorby et je vous propose d'elle, c'est en langue yiddish, alors une berceuse qui s'appelle petits-enfants. C'est une sorte de berceuse qui a un élément extraordinairement pathétique, mais je vous laisse écouter la langue yiddish, celle qui en appelait tellement à l'imaginaire romantique aussi de Franz Kafka. Lieder, zwischen die Gliederer.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Françoise Gernot cette réflexion sur les œuvres de Kafka, surtout pour une lecture philosophique avec un point d'interrogation. Et l'aspect de la langue est très important. Je crois que vous pouvez répéter, en fait, il y a trois, même quatre langues.
Alors,
en fait.
La langue est un phénomène important, puisqu'encore une fois, elle croise toutes ces incertitudes, toutes ces vicissitudes de l'identité personnelle de Franz Kafka. Alors, je disais, bon, l'allemand, langue administrative, mais une langue qui, pour lui, manque, il le dit à certains moments, je ne peux pas faire le détail, mais ça manque justement de teneur affective. Mmh. Hein. La deuxième langue, c'est la langue tchèque, qui est la langue vernaculaire. La troisième langue, c'est la langue fantasmée, yiddish. Et la quatrième langue, c'est l'hébreu. Car il essaie de travailler, il le fait très très sérieusement à la fin de sa vie, la langue hébraïque avec plus ou moins le fantasme de s'installer dans la Palestine mandataire de l'époque, puisqu'il est contemporain du début du mouvement sioniste, qui se présente quand même non seulement comme une réponse au pogrom, mais comme un mouvement d'émancipation de familles ayant perdu toute identité.
Et puis, il vit dans une époque, il verra la fin de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale, il voit la naissance de la Tchécoslovaquie, le tchèque comme une langue officielle, donc il a vraiment vécu dans un contexte important. Et dans tout cela, il a énormément donc écrit, on a dit, et quels sont les trois types de...
Alors, d'abord,
modalité de son
d'abord
écriture.
Un mot sur le testament. Donc, Kafka a eu pour ami extraordinairement proche Max Brod, qui a joué le rôle de, on dirait aujourd'hui, d'agent littéraire de Kafka, qui a reconnu tout de suite le génie de Kafka, qui a essayé de promouvoir ses textes dans les journaux, dans la presse. Et Kafka a, à la fin de la vie de Kafka, après son agonie qui était atroce. Hein. J'ouvre une parenthèse. Les derniers mots de Kafka à son médecin, qui est un ami, un jeune médecin ami, vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin.
Ça a été vraiment une agonie absolument
atroce. Oui. Alors,
son
Max Brod. Donc Max Brod va chercher dans le tiroir les papiers de Kafka. Max Brod savait que Kafka brûlait beaucoup. Il brûlait beaucoup de ses œuvres. Hein. Et il trouve un double testament l'un écrit sur en papier, l'autre écrit
en encre,
oui. Et tous les deux à son adresse dans l'enveloppe. Et il ouvre ce testament. Ce testament prescrit un, les écrits de moi, enfin mes écrits publiés, ne doivent pas être republiés. Et pour le reste, il faut tout brûler. Ce que n'a pas fait Max Brod. Alors, il n'a pas fait parce que sa vie était absolument investie par cette passion dans la reconnaissance du génie de Kafka. Je crois que c'était l'enjeu de sa vie.
Hein? Ça, pour lui, c'était impensable, en fait, de brûler
les écrits. Oui, et puis d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est Judith Butler qui le dit. Il y a un texte extraordinaire de Judith Butler sur Kafka. Judith Butler dit, mais après tout, s'il fallait tout brûler, ne fallait-il pas aussi brûler le testament?
Oui.
Il y a une espèce de logique affolante, proprement affolante, dont se sort Max Brod, puisqu'il publie Kafka.
Alors justement, tout ce qu'il publie, tout ce qu'il réédite, donc vous allez conclure cette première émission, on développera dans la seconde, juste nous dire les trois modalités d'écriture.
Oui, alors Kafka écrit, ce n'est pas tout à fait artificiel, selon trois modes d'expression. D'abord la correspondance, qui est énorme. Hein. Deuxièmement, correspondance à ses amis, mais surtout à ses compagnes. Ensuite, les romans que nous connaissons, il y en a trois, hein, nous les connaissons tous les trois, en particulier le procès. Donc l'un, America, ou bien le disparu maintenant, le procès, le château. Trois romans inachevés. Bon. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, la lecture, j'en connaissais quelques-uns, Kafka a laissé beaucoup de textes, alors publiés ou non publiés, qui sont de petits récits où le temps et l'espace sont, métamorphosés aussi, des textes aussi, alors c'est ceux qui m'intéressent le plus, des textes dans lesquels figurent des animaux. Alors, ils figurent ou bien comme objet d'une description, mais les textes les plus intéressants, selon moi, sont des textes où les animaux, Kafka leur prête une subjectivité, une intériorité, et ces animaux parlent en leur nom propre et sur un mode d'autobiographie, je dirais très pensée, très conceptualisée. Je pense par exemple à le texte qui peut-être me fascine le plus, qui s'appelle « Recherche d'un chien ».
Mais vous nous donnerez à la fin de la seconde émission des conseils bibliographiques. Donc on arrête là pour aujourd'hui et on vous retrouve avec grand plaisir dans la seconde émission pour développer cette lecture philosophique avec un point d'interrogation.
Je vous remercie.
Merci.